à l'Est sur RCN.
Bonjour Elfenoul, je suis très content de vous retrouver comme tous les vendredis dans notre émission Complètement à l'Est. Aujourd'hui, pour notre micro-trottoir, nous allons demander l'avis des Nancéens sur l'importance de la santé mentale. Pour notre invité de la semaine, nous recevrons Olivia, une conférencière, formatrice et écrivaine qui viendra nous partager son expérience professionnelle, mais plus particulièrement en nous parlant de sa maladie qui est la bipolarité. Pour commencer aujourd'hui avec les élèves du collège Jean Lamour, nous nous rendrons donc au lycée des métiers entre Meurthe et Sanon qui se situe à Dombasle pour parler plus particulièrement des filières qu'ils proposent après le bac.
RCN, complètement à l'Est, Elfenoul.
Le lycée des métiers entre Meurthe et Sanon, 2 rue Levasseur, 54 110 Dombasle, propose plusieurs prépas aux métiers comme métier de l'automobile, métier de la chimie, métier des travaux publics ou métier du commerce et de la vente. Je vais vous laisser découvrir tout ça par la présentation de ces différents types de métiers par les professeurs du lycée.
Vous êtes élève de quel...
Alors de 3e du collège Jean Lamour à Nancy.
3e général ?
Oui.
Donc orientation plus sur un bac pro ?
Bah oui, voilà.
Ok, super.
Voilà. Donc découverte des différentes filières à travers la visite de différents
établissements. D'accord, très bien. Donc là, en bac pro carrosserie, on apprend essentiellement donc à effectivement redresser un peu des éléments ou savoir s'il vaut mieux le remplacer, mais c'est plus des gens qui tapent sur la tôle toute la journée. Là, il y en a un petit peu qui tapait sur la tôle. Sinon, tous les autres, ils sont sur des systèmes avec des énergies. Je prends un exemple maintenant. Qu'est-ce que vous avez dans les volants ou dans les sièges qui protègent en cas d'accident des airbags ? Donc, il faut être capable d'intervenir sur des systèmes d'airbags. Donc, ça, c'est le carrossier. Un airbag passager qui saute, il faut remplacer la planche de bord, donc la carrosserie intérieure du véhicule, les plastiques. Là, pour l'intervention qu'on est en train de faire sur le véhicule client, il faut déposer un siège électrique avec un intérieur cuir. D'accord ? Donc tout ça, c'est de la carrosserie aussi. La pub que vous avez tous vue à la télé, Carglass, qui répare et qui remplace les pare-brises, qui recalibre les caméras, c'est de la carrosserie. La réparation des plastiques, des pare-chocs de voiture, c'est de la carrosserie. Les phares de voiture, maintenant, on arrive à les... Une fois qu'ils sont tout ternes, qu'ils brillent plus, qu'ils éclairent plus bien, on est obligé de les... soit de les remplacer, soit de les rénover. Donc, il y a plusieurs techniques. Donc, la rénovation de phares, c'est de la carrosserie aussi. Vous voyez, on est dans des métiers super diversifiés. On fait de tout en carrosserie. Aussi bien un petit peu de récolte de fluide, donc comme l'huile de vidange. Quand on doit intervenir sur des voitures, des fois, on est obligé de vidanger pour déposer le moteur. On fait aussi ça en carrosserie. Voilà. Donc, on fait énormément de choses. On ne fait pas que taper sur la tôle. Donc, on fait aussi de la soudure pour remplacer des éléments soudés sur la voiture. On va faire du chiffrage, c'est-à-dire combien ça va coûter au client de réparer sa voiture, si elle est réparable, si ça ne coûte pas trop cher par rapport au prix de la voiture. Voilà. Un petit peu tout ce qu'on fait, l'étendue du métier. Je pense que j'ai rien oublié.
Donc là, c'est un bac pro aussi.
Bac pro en 3 ans, ouais.
Okay.
Ou en 1 an, si on a déjà un bac. Ça se fait aussi.
D'accord.
Donc là, j'ai des élèves de mécanique auto qui ont déjà un bac, qui font la formation en 1 an. J'ai des 3 peintres.
Ils ont fait généralement mécanique et après,
voilà.
Ils font...
Ou des peintres qui font carrosserie en 1 an. Voilà, ça marche aussi très bien.
C'est bien comme ça.
L'alternance, donc on fait aussi de l'alternance ici. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez être apprenti dans une entreprise et continuer à rester chez nous. Donc ça se passe régulièrement comme ça. Vous allez en stage la première fois, le patron il dit, oh, lui c'est un bon jeune. Il vous propose un contrat d'apprentissage, comme ça il vous forme. Vous continuez à aller un petit peu à l'école. Vous allez à l'entreprise, vous êtes payé et vous continuez votre scolarité ici.
Voilà. En 3 ans toujours.
En 3 ans toujours. Mmh. S'il n'y a pas de diplôme avant. C'est exactement la même formation. Mmh. Et si ça ne se passe pas bien, ce qui est déjà arrivé, l'élève peut revenir en formation. Sachant qu'à l'heure actuelle, on est dans les 20 premiers métiers en tension. C'est-à-dire que là, moi je ne suis pas une semaine sans partager sur les réseaux sociaux un copain à moi qui cherche à embaucher. On est vraiment dans des métiers où on cherche à embaucher des gens et on parle surtout de savoir-être. Pas trop de savoir-faire, c'est-à-dire on vous demande de changer le bout de bâtisse, vous ne savez pas, c'est pas grave, mais vous avez envie d'apprendre, vous êtes à l'heure chez le patron tous les jours, vous êtes volontaire, vous ne restez pas assis dans la voiture avec votre téléphone. Voilà, on veut des gens volontaires.
Complètement à l'Est sur RCN.
Donc ici, vous êtes dans l'atelier de carrosserie construction. Donc le carrossier constructeur, c'est un métier où on aménage et on transforme les véhicules. Vous avez deux variantes dans le métier de carrossier. Vous avez le carrossier constructeur où nous, voilà, on aménage, on transforme. Et vous avez le carrossier réparateur que vous verrez juste après, qui lui répare les véhicules. C'est le métier qui est le plus connu du métier de carrossier. Construction, on reste un métier méconnu, mais ça n'empêche que vous en côtoyez tous les jours. Au quotidien, vous croisez des véhicules qui passent par des ateliers de carrossier constructeur. Le carrossier constructeur, il va toucher à tous les métiers de service. Je présente des métiers de service que vous connaissez, tout ce qui touche au domaine de la police, du transport, la sécurité, les ambulances. Oui. Des véhicules que vous connaissez tous, c'est les food trucks, camions pizza, camions hamburger, carrossier constructeur. On a des élèves qui vont faire des stages dans des entreprises, soit apprentis dans des entreprises qui fabriquent des food trucks. Les bus, l'aménagement des bus, ça fait partie des carrossiers constructeurs. Les véhicules de loisirs qui sont semblables aux camping-cars, vous connaissez ? Carrossiers constructeurs.
Les nacelles
élévatrices. Les nacelles. À partir du moment où il y a une valeur ajoutée sur le véhicule, ça passe par un carrossier constructeur. Ça peut passer d'un seul petit gyrophare fixé sur une voiture de service ou même une voiture de police.
Une attache caravane.
Qu'un véhicule qui soit entièrement découpé et totalement transformé. Le carrossier constructeur, voilà, on travaille là-dessus. Donc ici, vous êtes dans l'atelier. Notre atelier, il est séparé en deux parties. On a une partie, donc là où vous êtes, on est sur le parc machine. Le carrossier constructeur, pour qu'on puisse aménager et transformer nos véhicules, il faut qu'on passe parfois par une phase de fabrication de pièces. Donc on part sur une tôle qui est en feuille, une tôle entièrement à plat, qui fait parfois 2 mètres par 1 mètre, et elle passe par les différents secteurs de fabrication qui sont là derrière. Donc vous avez ici une cisaille guillotine qui permet de découper la matière, la tôle. Une presse plieuse à commande numérique qui, elle, va pouvoir plier la pièce. Vous avez, alors là, il a arrêté, mais il y a un élève qui était tout à l'heure derrière en train de faire de la soudure aluminium. Donc on travaille les procédés d'assemblage et notamment la soudure. On fait de l'assemblage mécanique aussi, de l'adhésif. Donc on a les stickers que vous voyez parfois sur les véhicules, on fait ce type d'assemblage-là. Juste derrière. Donc ce secteur d'atelier, c'est notre secteur véhicule. Ici, on va faire tout ce qui est transformation et aménagement. Vous avez un projet qui est en cours de réalisation. Donc là, on est sur un concept de transformation de véhicule où on est en train de réaliser une remorque insolite. Remorque insolite parce que une remorque comme ça, vous n'en verrez pas beaucoup ici. C'est quelque chose qui est assez développé aux États-Unis où vous voyez souvent des véhicules qui sont coupés en deux, qui de la même gamme que le véhicule qui le tracte, mais du coup ici vous n'en verrez pas beaucoup. À la base c'était un Scénic, donc un Renault Scénic entier, qu'on a coupé en deux et qu'on va fermer pour le transformer en remorque fourgon. Ce projet, il a été entièrement réfléchi par les élèves, c'est-à-dire que c'est eux qui ont défini les endroits où ils allaient couper, c'est eux qui ont coupé le véhicule, c'est eux qui ont décidé de mettre un renfort au milieu, de faire l'habillage à l'intérieur. Donc vous voyez au niveau des portes, il y a un habillage bois qui est en train d'être réalisé. Au milieu, vous avez un plancher bois qui est en train d'être fait aussi. Et du coup, ils vont fermer cette remorque. Vous avez l'exemple sur la photo, juste là. C'est le véhicule tel qu'il était avant. Et nous, on va le transformer pour en arriver à ça. Et c'est les élèves qui réalisent ce projet. Ils le réfléchissent et ils le produisent à l'atelier.
Complètement à l'Est sur RCN.
Monsieur Jagnatic, enseignant au lycée et plus particulièrement pour les secondes, famille de métier. Ça s'adresse aussi bien aux filles comme aux garçons comme aux filles, puisqu'on a beaucoup de filles aussi qui travaillent avec nous. Donc en sortant de troisième collège, vous faites des premiers vœux et vous pouvez intégrer cette seconde qui est un peu particulière, qui s'appelle famille de métier, dans laquelle vous allez pouvoir affiner votre choix. Ça veut dire que on va vous faire découvrir tous les métiers qui tournent autour de l'automobile. C'est pourquoi, là, pour l'instant, vous voyez des véhicules, des voitures, d'accord. Vous avez une micropelle ici, donc de l'engin de travaux publics, du poids lourd avec un camion. Vous avez derrière des motos, des scooters. Vous avez aussi de l'espace vert, c'est-à-dire tronçonneuses, débroussailleuses et tondeuses. Donc, c'est-à-dire que vous allez toucher absolument à tous les corps de métiers qui tournent autour de l'automobile. Pour vous donner, on va dire, pour affiner votre choix, en fait, pour vous rassurer dans le choix que vous allez faire. Pour certains, vous avez peut-être déjà en train de vous dire « je veux faire mécanique auto », mais de travailler sur du poids lourd ou sur de l'engin de travaux publics, vous allez dire bon, « en fait, ça m'intéresse plus ». Vous voyez, l'objectif, c'est ça, c'est de vous faire découvrir pendant cette année. C'est une année de découverte. Voilà un petit peu ce que nous, on enseigne ici. Donc, c'est beaucoup d'heures en atelier. On a 12 heures d'atelier par semaine avec les secondes bacs, donc sur un cursus qui dure 3 ans. Première année, donc, on fait le choix de ce qu'on veut faire. Deuxième année, on a fait le choix, donc on continue dans la voie qu'on veut faire jusqu'en terminale bac, en troisième année, où vous obtenez bien sûr votre bac avec mention, bien sûr, parce que vous allez être très bon. Et à partir de là, on peut même vous proposer de poursuivre vos études vers un BTS. Nous avons ici dans l'établissement un BTS qui est un peu spécifique, qui concerne les engins de travaux publics, donc maintenance des engins de travaux publics. Donc ça peut, vous pouvez découvrir, on va dire, des passions autour de cette seconde de métier. Voilà, donc 12 heures d'atelier, donc c'est beaucoup. Alors c'est plutôt cool, vous voyez, on travaille dans une enceinte où il n'y a personne d'autre qui travaille. Vous voyez, on est bien séparés des autres. Et en fait, on travaille toujours par binôme, où chacun a des caisses, vous voyez, comme dans un atelier, dans un garage, et ils sont responsables de leurs caisses, de leurs outils. Donc on les responsabilise à ce niveau-là. Et aujourd'hui, on a, par exemple, avec les secondes qui viennent d'arriver au mois de septembre, eh bien, on a 3 voitures clients qui ont été rentrées, donc on travaille aussi pour les clients. Donc on n'a pas que des voitures écoles, on fait rentrer aussi des voitures clients pour faire, je dirais, des gros travaux. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment vous faire découvrir le métier, des différents métiers, que vous arriviez à trouver votre voie, et à partir de là, et surtout ce qu'on souhaite, c'est d'avoir des personnes motivées. Voilà. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez surtout pas à venir nous rendre visite, avec grand plaisir. Et je vous le dis une fois de plus, les hommes comme les femmes sont les bienvenus.
Complètement à l'Est sur RCN.
Alors je me présente, je suis Anne-Laure Viscard, donc moi je suis enseignante en maintenance des matériels ici. Donc la maintenance des matériels, c'est la réparation des gros engins qui vont servir par exemple à construire les routes, qui vont servir à construire les maisons et tout ça. Donc cette salle-là, elle est un petit peu dédiée à de l'hydraulique. Donc l'hydraulique, c'est entre guillemets ce qui va servir à faire bouger toutes nos grosses machines. D'accord. Est-ce que vous savez un petit peu les engins de chantier, est-ce que vous connaissez ou pas ? Tractopelle. Le tracteur, ça peut être une pelleteuse. Les grues, c'en est un aussi. Donc ici, on va apprendre à réparer toutes ces grosses machines qui vous permettent d'avoir des maisons, de rouler en voiture sur des routes, etc. Donc par exemple ici, c'est ce qu'on appelle un banc hydraulique. Donc le banc hydraulique, il va vous servir à apprendre comment fonctionnent les systèmes là. Vous savez ce que c'est que l'hydraulique ? Hydraulique, suspension hydraulique, ça te parle ? Tu as dit ? Oui, ça c'est sur les voitures. Nous, l'hydraulique, c'est tout ce qui va servir à faire bouger la machine, donc tout ce qui va permettre de faire bouger le bras, etc. Donc ici, on a plusieurs sortes de métiers. Le technicien d'atelier qui, lui, va rester en atelier faire de la mécanique. On va avoir les techniciens itinérants. Ce sont les jeunes qui sont dans des camionnettes. Vous allez travailler sur toutes vos machines. Le soir, vous commandez vos pièces et hop, on vous les livre le lendemain. Et vous repartez travailler. Et les techniciens dépanneurs. Donc les salaires, ils vont être en fonction du travail que vous allez faire. Donc par exemple, si vous restez en atelier, vous aurez un salaire qui aujourd'hui est à peu près entre 1006 et 2200 euros. Si vous travaillez mieux, que vous allez en BTS, que vous êtes dépanneur ou que vous êtes doué en anglais, parce que l'anglais est super important, vous pouvez aller, par exemple, monter des machines aux quatre coins du monde. Nous, on a des anciens élèves qui travaillent pour Liebherr et qui vont monter les machines Liebherr dans les mines, que ça soit en Angola, en Guinée, en Russie, partout. Donc là, par contre, les salaires, c'est plus du tout les mêmes. Ça grimpe très, très vite. Mais pour ça, il faut maîtriser l'anglais. Alors, on ne vous demande pas non plus de faire de l'anglais en façon Shakespeare, mais d'être capable de tenir une petite discussion simple avec quelqu'un pour lui expliquer comment il doit monter les choses. Donc c'est un métier qui aujourd'hui appelle dans un métier en tension. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous sortez avec votre diplôme d'ici et que vous êtes un minimum intéressé, vous êtes sûr d'avoir du travail et d'avoir un salaire plus que correct. Ce qui aujourd'hui, je pense, n'est pas négligeable. Les filles en sont tout à fait capables. J'en ai très régulièrement. Je suis moi-même une femme. Je pense que ça se voit encore un petit peu. Ça ne m'a pas empêché d'exercer ce métier et ce n'est pas une problématique. Le matériel ayant tellement évolué aujourd'hui, vous avez besoin d'un peu moins de bras que moi j'en ai eu besoin à l'époque. Donc vous pouvez essayer. Si par hasard ça vous intéresse, moi je serais ravie au moins que vous puissiez venir découvrir une journée, parce qu'on ne peut pas dire qu'on n'aime pas un plat quand on ne l'a pas goûté. Donc il faut déjà essayer, après vous pourrez dire que vous n'aimez pas. Et pour ce qu'on fait ici, on fait aussi de l'électronique, de l'électricité, du moteur, de la soudure, parce qu'on apprend aussi à souder et faire de la fabrication mécanique. On apprend aussi l'hydraulique et à manipuler ces machines, puisqu'un mécanicien ne peut pas réparer une machine s'il ne sait pas la manipuler. Donc on ne passe pas nos journées à conduire, mais quand il commence à faire beau, on apprend à manipuler les machines. On peut devenir après le bac, conducteur d'engin si on souhaite, parce qu'on ne peut pas repartir sur un CAP conduite d'engin. On peut construire sur un BTS, et on a l'exemple de certains de nos élèves qui sont allés très très loin. Aujourd'hui, on a une de nos anciennes élèves qui aujourd'hui est en master en marketing. Donc vous voyez, le lycée professionnel peut aussi vous emmener assez loin.
RCN, complètement à l'est, elle fait nous.
On se retrouve juste après No Name de OneTBSP pour notre micro-trottoir.
Complètement à l'est, elle fait nous.
Pour notre micro-trottoir aujourd'hui, nous demandons aux anciens quelle est pour eux l'importance de la santé mentale.
Bah du coup, en tant qu'étudiant, c'est très important la santé mentale. Bah parce que déjà, ça te permet de mieux réussir tes études, je pense. Mais ce qui perturbe énormément la santé mentale, c'est les études, je trouve. Parce qu'on est sous pression tout le temps par les profs, etc. pour réussir. Et puis si on réussit pas, bah, on est nul. Si on n'a pas de diplôme, bah, on nous dit qu'on va pas avoir le métier de nos rêves, etc. Et qu'on sert à rien. Donc voilà, je pense qu'il faut énormément faire attention à ça. Prendre soin de soi, déjà je pense que ça passe par l'alimentation. Essayer d'en parler autour de soi, que ce soit un psychologue ou même quelqu'un de sa famille, etc. Il ne faut pas s'isoler et voilà, il ne faut vraiment pas rester tout seul et faire très attention à ça et prendre soin de soi pour réussir dans sa vie. Et même après, ça te permet de te découvrir toi-même et te réorienter si tes études ne te plaisent pas par rapport à la santé aussi.
Alors peut-être ce qui m'inquiète en ce moment au sujet de la santé mentale, c'est qu'il y a ce côté un peu hygiénique. Il faut que tout le monde soit d'une certaine manière pour peut-être pouvoir répondre à des exigences de la société. Alors que selon moi, la santé mentale, ça doit être quelque chose qui doit être vécu par la personne et pas imposé comme un dictat sur les gens.
La santé mentale, c'est entre guillemets un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel et de faire face aux difficultés de la vie. Je trouve que la santé mentale, c'est vraiment important, surtout pour un étudiant, que ce soit dans le monde professionnel, dans le monde... Dans notre quotidien, quoi. Et ça permet de s'intégrer, que ce soit familièrement, amicalement, professionnellement ou dans la vie socio-économique. C'est vraiment quelque chose, un aspect très important, et il faut savoir en prendre soin.
Moi, je trouve que la santé mentale, c'est quelque chose que, à partir du moment où ça touche pas, ça a pas d'impact physique, par exemple tout ce qui est les troubles de l'alimentation ou les dépressions vraiment sévères où il y a le corps qui souffre avec, c'est quelque chose qui est vu un peu de façon un peu superficielle. On dit tant qu'il n'y a pas de répercussions physiques, c'est que c'est pas grave. Mais les répercussions mentales sont encore plus dures que les répercussions physiques. Donc c'est quelque chose qu'il faut beaucoup plus prendre au sérieux et auquel il faut vraiment donner de l'importance.
Okay. RCN, complètement à l'est, elle fait nous.
On se retrouve dans un instant avec notre invité de la semaine, Olivia, juste après Jump You Can Fly de Who Is Azor.
À l'Est sur RCN, l'invité de la semaine.
On se retrouve maintenant dans la deuxième partie de cette émission avec notre invité de la semaine, Olivia. Comment vas-tu, Olivia ?
Bonjour Ellie, merci, très bien, merci de me recevoir.
Alors, est-ce que tu peux te présenter, nous raconter un peu ton parcours et nous dire un peu pourquoi tu es là aujourd'hui ?
Ben, je suis là pour vous raconter l'histoire de mon parcours personnel et professionnel qui est sans doute un petit peu atypique. Alors je sais pas, j'ai quoi ? J'ai 5 minutes, 1 heure, 3 heures ou 2 jours ?
On a tout le temps qu'il faut.
pour le faire court, je m'appelle Olivia, j'ai 43 ans, j'ai cohabité tout le long avec le trouble bipolaire.
D'accord.
Donc trouble bipolaire qui a émergé dans ma vie pour la première fois, j'avais à peu près 16 ans, l'amorce du diagnostic, j'ai une petite vingtaine d'années, et on va dire que l'acceptation et la bataille a commencé quand j'avais environ 27-28 ans. Sauf que en parallèle, il y a une vie scolaire, une vie sociale, une vie étudiante et aussi une vie professionnelle qui démarre. Donc ça a été un parcours assez compliqué, même si, comme je te disais tout à l'heure en off, Ellie, j'ai plutôt pas mal de diplômes et en fait tous ces diplômes, je les ai obtenus au détour de mes crises up, donc les crises up qui ponctuent la bipolarité et qui me rendent dans ces moments-là très énergique, très 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 active, voire très proactive. Donc voilà, j'ai une armée de diplômes que j'ai obtenus grâce notamment à la bipolarité. S'ensuit ensuite un début de parcours professionnel, mais je pense qu'on reviendra dessus peut-être un peu plus tard.
Déjà pour commencer, est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que la bipolarité à nos auditeurs, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est?
Oui, bien sûr. Alors, le trouble bipolaire, auparavant, on l'appelait la psychose maniaco-dépressive. Donc, c'est une maladie psychique, cérébrale, c'est-à-dire que c'est une problématique qui se situe au niveau des neurotransmetteurs qui sont situés en fait dans le cerveau. Donc concrètement, ça se passe comment? C'est une maladie généralement qui va nous accompagner tout le long de la vie et qui va aussi, on l'appelle souvent la folie circulaire. On l'appelle aussi le manège ascensionnel, pardon, excusez-moi. C'est-à-dire qu'en fait, on va jongler entre différentes périodes et notamment des crises qu'on va appeler de crises mélancoliques, dépressions très profondes, très noires, et d'autres crises qu'on peut appeler crises up, et qui vont là nous amener dans une euphorie et dans tout un tas d'autres troubles beaucoup plus précis que ça.
Ok. Alors, quand ça a commencé, que tu as commencé à te faire diagnostiquer bipolaire et que tu étais à l'école, comment ça s'est passé pour toi? Comment tu l'as vécu et comment tu as dû gérer ça avec ta scolarité?
Alors, je dirais que la toute première crise, donc j'ai à peu près 16-17 ans, et là, moi, je traverse une crise mélancolique très noire, très profonde. Sauf qu'au moment-là, je suis un petit peu dans une parenthèse scolaire et professionnelle. Donc, j'ai pas eu trop de conséquences sur ma vie sociale. C'était vraiment des conséquences sur ma vie personnelle. Par contre, la première crise, j'ai une vingtaine d'années. Là, je suis étudiante en école de commerce. Et en fait, je vis cette crise par palier. C'est-à-dire que les premières semaines, les premiers mois, je suis ni plus ni moins que dans un côté très positive, très solaire, très sociale. Je suis très tournée vers les autres. Et puis, tout doucement, je vais dormir de moins en moins. Mais j'ai pas de ressenti de la fatigue en fait. Donc ça va me permettre d'avoir plus de temps pour travailler, plus de temps pour étudier, plus de temps pour mettre en place les projets étudiants qu'on attendait de moi. Donc jusque là, je dirais que ça passe assez inaperçu auprès de mon cercle d'amis. Et puis les mois vont passer et là en fait j'arrive dans des proportions de la crise up qui bien souvent m'échappent. C'est-à-dire que au-delà d'une hyperactivité physique, au-delà d'une hyperactivité cérébrale, au-delà d'une énergie, au-delà d'une réflexion aiguisée qui m'aidait à réussir mes études, et bien tout doucement, je vais basculer sur l'exigence. L'exigence à mon égard, mais aussi et surtout l'exigence envers les personnes qui m'entourent et donc mes camarades de classe. L'exigence va se transformer tout doucement en intolérance. Cette intolérance va faire vriller mon regard dans un regard noir. Et cette intolérance va se transformer en agressivité verbale, agressivité vis-à-vis de moi. Et là, je pars en cacahuète. Donc là, c'est des semaines et des semaines qui s'en suivent dans une énergie débordante, mais négative, dans beaucoup d'agressivité. Je vais taper contre les murs, je vais tout jeter, je suis capable de tout quitter, de jeter mes clés, mon ordi, mon PC et me casser. Donc là, ça devient compliqué dans mes relations avec mes collègues, avec mes camarades de classe. Donc ils me regardent, ils comprennent pas.
Et du coup, quand est-ce que tu as eu un diagnostic posé après ces crises? Est-ce que tu étais déjà informé ou tu as été informé après que de ta maladie?
Alors en fait, je pense qu'à partir de mes 16-17 ans, lors de la première crise, mes parents, mes sœurs, me pousse à aller consulter. Sauf que je le fais une fois, deux fois, puis je claque la porte du psychiatre et je m'en vais. Bon, la fois d'après, je vais y rester un petit peu plus. Donc, ça titille un peu les idées des psychiatres qui m'entourent, mais je finis toujours par claquer la porte et m'en aller. Je me sens pas concernée, je me sens pas différente, je ne pense pas avoir de problématique, je pense juste que le monde n'est pas à mon image et que c'est au monde de s'adapter à moi et pas à moi de m'adapter à lui. En tout cas, c'est ce qui se passe à l'époque. Mais la première fois où un médecin psychiatre l'évoque, je pense que j'ai 20-22 ans. Mais ce n'est pas un vrai diagnostic, c'est une hypothèse de diagnostic. Okay. Il faudra attendre encore plusieurs années et surtout plusieurs années me concernant pour que je sois dans une acceptation, que je cesse cette période de déni et que je reconnaisse tout simplement que j'ai un problème et que j'ai besoin d'aide.
Okay.
Et là, j'ai 27 ans. Et c'est là où vraiment le diagnostic se pose.
Ok. Et à tes 27 ans, du coup, dans quelle situation t'étais ? Une situation scolaire, professionnelle à quel moment t'en étais de ta vie ?
Alors, j'étais dans un moment exceptionnel de ma vie, puisque ce qui m'a aidé, ce qui m'a permis d'ouvrir les yeux et d'accepter le fait que j'avais besoin d'aide, c'est qu'en fait, à 27 ans, je suis devenue maman.
Okay.
Donc, en fait, c'est la naissance de mes fils jumeaux, cette rencontre qu'on a eue tous les trois quand ils sont nés, nos yeux dans les yeux, qui m'a fait prendre conscience que maintenant, j'étais une maman.
Okay.
Et que c'était juste plus possible de fermer les yeux sur ce qui se passait en moi, en fait, et sur ce que ça générait autour de moi. Ça a été vraiment comme une évidence.
Okay.
On s'est rencontrés et je me suis dit, là, il va falloir travailler sur toi, Olivia.
Okay. Donc, c'était un peu pour prendre soin de tes enfants et pour leur sécurité, on va dire ?
C'était pour leur sécurité, évidemment, mais c'était tout simplement pour leur offrir le meilleur de moi.
Ok. Donc pour avoir la présence de leur maman à leur côté, tout en étant bien, quoi.
Exactement.
D'accord. Et du coup, là, par rapport à ta maladie, avec tes enfants, comment ça s'est passé professionnellement et aussi en étant maman, en travaillant, en étant malade, comment t'as dû allier tout ça ?
C'était un gros bordel, ma vie, hein. Oui, surtout que ce que je dis pas, c'est que je suis carriériste. Mm-hmm. En tout cas, à l'époque-là, je suis carriériste. Donc, en fait, je veux tout mener de front.
Okay.
Être maman, qui plus est, être maman 27 ans, c'est assez jeune, mais c'est surtout deux enfants en même temps. Ouais. Donc, c'est quand même un challenge. Entre les 16-17 ans que je t'évoque en début d'interview et les 27 ans où je deviens maman, il y a une dizaine d'années. Et en fait, dans cette dizaine d'années, j'ai continué à obtenir différents diplômes, à évoluer professionnellement. J'avais déjà des postes à responsabilité, on m'en confiait. J'étais déjà dans l'encadrement d'équipe, donc en qualité de manager. Donc si je reformule ta question, comment ça s'est passé ? Du moment où je suis devenue maman, j'ai déjà accepté de me faire soigner, de me faire aider. Donc ça a été le début d'un long périple, parce qu'il faut trouver... non pas le bon psychiatre, mais les bons professionnels qui vont m'accompagner, qui vont m'aider à trouver des solutions. Et puis, il a fallu faire des choix, il a fallu privilégier, faire des choix, tout simplement. Donc, ce qui a été mon moteur, c'était mes enfants.
Okay.
Donc, là, je te raconte en quelques minutes le parcours de toute ma vie, on va dire. Mm-hmm. C'est certainement plus complexe que ça. C'est plus complexe que ça, mais voilà.
Ok. Et au moment où là, tu travailles, même avant, comment tu alliais ta maladie et le professionnel, en fait, justement, quand tu passais sur des crises up ou peut-être des crises down, on dit ?
Oui, on dit down.
Down. Et du coup, comment ça se passait au travail ?
Alors, c'est extrêmement compliqué. C'est une question très pertinente que tu poses. Je dirais qu'une des premières compétences que j'ai acquéries, c'est le masque social. Donc, en fait, je pense que j'ai grandi avec une capacité à faire semblant, soyons honnêtes. Et du coup, j'avais conscience de ce que la société attendait de moi. Peu importe que je sois dans la profondeur et dans la noirceur d'une crise down, ou vraiment complètement perché et désinhibé, perché là-haut, j'avais toujours ce rapport à la vie qui me faisait dire il faut que tu te caches derrière ce masque social. Donc en fait, je sais très bien jouer de mon regard, de mon sourire et faire semblant. Donc j'ai beaucoup erré d'une expérience professionnelle ou étudiante à l'autre avec ce faire semblant. Même si les proches, mes proches, très proches, s'ils étaient là à côté de nous, ils vous diraient que derrière ce sourire, derrière cette façade, derrière ce masque, dans le fond de mes yeux, on voyait très bien qu'à l'intérieur de moi, je vivais une tempête. Donc j'étais vraiment dans le maintien pour faire en sorte que ça se voit le minimum. Mais ça se voyait forcément comme un éléphant au milieu d'un magasin de porcelaine.
D'accord.
J'ai des exemples précis, ça se voyait forcément.
D'accord. Bon, on va reprendre la suite de cette interview. Juste après le son que tu veux faire passer aujourd'hui, quel est le son que tu as envie de faire passer aujourd'hui
Alors moi j'aime beaucoup la musique, mais là je vais vous emmener à découvrir Aurel San à travers Suicide Social.
Allez, écoutons ça.
Aujourd'hui sera le dernier jour de mon existence, la dernière fois que je ferme les yeux, mon dernier silence. J'ai longtemps cherché la solution à ces nuisances, ça m'apparaît maintenant comme une évidence. Fini d'être une photocopie, fini la monotonie, la lobotomie. Aujourd'hui, je mettrai ni ma chemise ni ma cravate. J'irai pas jusqu'au travail, je donnerai pas la patte. Adieu les employés de bureau et leur vie bien rangée. Si tu pouvais rater la tienne, ça les arrangerait. Ça prendrait un peu de place dans leur cerveau étriqué. Ça les conforterait dans leur médiocrité. Adieu les représentants grassouillés qui boivent jamais d'eau comme s'ils voulaient pas se mouiller. Les commerciaux qui sentent l'aftershave et le cassoulet. Mettent de la mayonnaise sur leur mallette, ils se la boufferaient. Adieu, adieu les vieux comptables séniles. Adieu les secrétaires débiles et leurs discussions stériles. Adieu les jeunes cadres fraîchement diplômés qu'empileraient les cadavres pour arriver jusqu'au sommet. Adieu tous ces grands PDG. Essaie d'ouvrir ton parachute doré quand tu te fais défenestrer. Ils font leur peur sur des salariés désespérés et jouent les vierges effarouchées quand ils se font séquestrer. Tous ces fils de quelqu'un, ces fils d'une pute snob qui partagent les trois quarts des richesses du globe. Adieu ces petits patrons, ces pauvres en bourgeoisie qui grattent les RTT pour payer leurs vacances d'été. Adieu les ouvriers, ces produits périmés. C'est la loi du marché mon pote, t'es bon qu'à te faire virer. Ça t'empêchera d'engraisser ta gamine affreuse qui se fera sauter par un pompier qui va finir coiffeuse. Adieu la campagne et ses familles crasseuses proches du port au point d'attraper la fièvre rafteuse. Toutes ces vieilles, ces commères qui se bouffent entre elles, ces vieux radins et leurs économies bout de chandelle. Adieu cette France profonde, profondément stupide, cupide, inutile, putride. C'est fini, vous êtes en retard d'un siècle. Plus personne n'a besoin de vos bandes d'inceste. Adieu tous ces gens prétentieux dans la capitale qui essaient de prouver qu'ils valent mieux que toi chaque fois qu'ils te parlent. Tous ces connards dans la pub, dans la finance, dans la com, dans la télé, dans la musique, dans la mode. Ces parisiens jamais contents, médisants, faussement cultivés, à peine intelligents. Ces réplicants qui pensent avoir le monopole du bon goût, qui regardent la province d'un œil méprisant. Adieu les sudistes abrutis par leur soleil cuisant. Leur seul but dans la vie c'est la troisième mi-temps. Accueillant, soi-disant, ils te pèsent avec le sourire. Tu peux le voir à leur façon de conduire. Adieu, adieu ces nouveaux fascistes qui justifient leur vie de merde par des idéaux racistes. Devenu néo-nazi parce que t'avais aucune passion. Au lieu de jouer les SS, trouve une occupation. Adieu les piranhas dans leur banlieue qui voient pas plus loin que le bout de leur haine, au point qu'ils se bouffent entre eux, qui deviennent agressifs une fois qu'ils sont à 12. Seul, ils lèveraient pas le petit doigt dans un combat de pouce. Adieu les jeunes moyens, les pires de tous. Ces baltrins ne supportent pas la moindre petite secousse. Adieu les fils de bourges qui possèdent tout mais savent pas quoi en faire. Donne-leur l'Éden, ils t'en font un enfer. Adieu tous ces profs dépressifs. T'as raté ta propre vie, comment tu comptes élever mes fils? Adieu les grévistes et leur CGT qui passent moins de temps à chercher des solutions que des slogans pétés. Qui fouettent la défaite, tu survêtes au visage. Transforme n'importe quelle manif en fête au village. Adieu les journalistes qui font dire ce qu'ils veulent aux images. Vendraient leur propre mère pour écouler quelques tirages. Adieu la ménagère devant son écran, prête à gober la merde qu'on lui jette entre les dents. Qui pose pas de questions tant qu'elle consomme. Qui s'étonne même plus de se faire cogner par son homme. Adieu ces associations bien pensantes, ces dictateurs de la bonne conscience, bien contents qu'on leur fasse du tort. Ce à celui qui condamnera le plus fort. Adieu lesbiennes refoulées, surexcitées, qui cherchent dans leur féminité une raison d'exister. Adieu ceux qui vivent à travers leur sexualité. Danser sur des chariots, c'est ça votre fierté. Les bisounours, c'est leur pouvoir de l'arc-en-ciel, qui voudrait me faire croire qu'être hétéro c'est à l'ancienne. Tellement, tellement susceptible, pour prouver que t'es pas homophobe, faudra bientôt que tu suces des types. Adieu ma nation, tous ces incapables dans les administrations, ces rois d'inaction, avec leurs bâtiments qui donnent envie de vomir, qui font exprès d'ouvrir à des heures où personne peut venir. Mais tous ces moutons pathétiques changent une fonction dans leur logiciel, ils se mettent au chômage technique, à peu près le même QI que ces saletés de flics, qui savent pas construire une phrase en dehors de leur sale réplique. Adieu les politiques, en parler serait perdre mon temps, tout le système est complètement incompétent. Adieu les sectes, adieu les religieux, ceux qui voudraient m'imposer des règles pour que je vive mieux. Adieu les poivrons qui rentrent jamais chez eux, qui préfèrent se faire enculer par la française des jeux. Adieu les banquiers véreux, le monde leur appartient. Adieu tous les pigeons qui leur mangent dans la main. Je comprends que j'ai rien à faire ici quand je branche la 1. Adieu la France de Joséphine Ange Gardien. Adieu les hippies, leur naïveté qui changera rien. Adieu les SM libertins et tous ces gens malsains. Adieu ces pseudo-artistes engagés, plein de banalités, démagogues dans la trachée. Écouter des chanteurs faire la morale, ça me fait chier. Essayer d'écrire des bonnes paroles avant de la prêcher. Adieu les petits mongols qui savent écrire qu'en abrégé. Adieu les sans-papiers, les clochards, tous ces tas de déchets. Je les hais, les sportifs, les hooligans dans les stades, les citadins, les bouseux dans leur étape. Les marginaux, les gens respectables, les chômeurs, les emplois stables, les génies, les gens passables. De la plus grande crapule à la médaille du mérite, de la première dame au dernier trap du pays.
RCN, complètement à l'est, elle fait nul.
Alors aujourd'hui on est avec Olivia, alors est-ce que tu vas toujours bien? Tout se passe bien pour toi?
Ben oui, tout se passe très très bien.
Parfait, ben on va reprendre sur ce que tu disais. Alors j'aimerais bien revenir sur le terme du coup de masque social. Pourquoi t'as dû te mettre un masque social? Est-ce que c'était par rapport aux gens? Tu pensais qu'ils n'allaient pas accepter ta maladie ou c'est toi qui voulais le faire pour gérer ta maladie? Pourquoi du coup ce masque social?
Ben, c'est une bonne question, je pense que c'est une double réponse en fait. Effectivement, moi je commence ma vie avec 10 ans de déni, et même derrière ça, même une fois que je suis dans l'acceptation, ben, j'ai honte en fait.
Okay.
Et pourquoi j'ai honte? Parce que, ben, parce qu'on évolue dans une société où les maladies psy, ben, en fait c'est tabou.
Ouais.
En fait il faut les cacher, en fait il ne faut pas en parler. Et que ce soit dans un contexte social, familial, et encore plus dans un contexte professionnel. Donc je me suis fait une armure, et j'ai fait en sorte d'avoir une vie à peu près normale, malgré toutes les tempêtes qui se passaient à l'intérieur de moi.
Okay.
Et le masque social, il était obligatoire.
Comment ça se matérialisait chez toi, bah, dans ton quotidien professionnel, ton masque social?
Comment ça se caractérisait chez moi dans mon quotidien professionnel, ce masque social? Bah vraiment, je faisais semblant. Moi, j'ai un exemple très concret. Mmh. Assez rapidement, j'ai pris conscience que je pouvais pas avoir de job à responsabilité, tout simplement parce que je pouvais pas manager des gens.
Ouais.
Tout simplement parce qu'il était déjà difficile de me manager toute seule.
Mmh.
Donc j'ai rapidement fait le choix de me recentrer sur moi, de recentrer mon métier sur moi.
Ouais.
J'ai fait le choix d'être commerciale pour des raisons. Alors oui, j'aimais bien ce job. Il y avait un intérêt, mais en fait, il y avait des vrais intérêts de santé. Pourquoi? Parce que dans une journée, mes journées étaient ponctuées de rendez-vous en face à face avec mes clients et de temps de pause, entre guillemets, c'est-à-dire le temps de voiture entre deux rendez-vous clients.
Ouais.
Et en fait, ces temps de voiture me permettaient comme un sas de décompression. Donc, c'est-à-dire que je rentrais en clientèle, j'avais ce masque social, cette façade qui donnait l'illusion que j'étais à peu près bien. Et une fois arrivée dans ma voiture, je criais, je hurlais, je pleurais, j'explosais le volant.
Okay.
Et ensuite, j'arrivais à mon deuxième rendez-vous avec ce masque social. Même si des fois j'ai vécu des situations particulières, le masque social sur le visage, la posture, l'ouverture d'esprit, enfin l'ouverture d'esprit c'est facile à dire, en tout cas tout ce qui laissait croire que j'étais une commerciale lambda, je gérais mon entretien de vente comme un commercial lambda, avec bah, le sourire de rigueur, hein, et je menais ma communication avec entrain, avec dynamisme, avec professionnalisme, mais mes yeux pleuraient, parce qu'à l'intérieur je vivais une tempête émotionnelle tellement forte qu'il fallait que ces émotions sortent à un moment donné, et là j'arrivais plus à les contenir et mes yeux pleuraient en vain face à un client auprès de qui j'avais une posture et un charisme, mais mes yeux pleuraient.
Et du coup, est-ce que à un moment tu t'es dit j'en ai peut-être marre de cette situation, j'aimerais bien pouvoir l'assumer professionnellement et vivre mieux dans le monde du travail?
Oui, complètement. Je suis pas sûre que ça a été un déclic qui s'est fait un jour en particulier. Je pense que c'est vraiment un cheminement de vie. Ouais. Je pense que je suis passée, comme je disais, il y a eu la période de déni, il y a eu la période d'acceptation. Après, s'en est suivie une longue période d'errance médicale où il a fallu trouver un traitement qui était adapté. C'était extrêmement long et fastidieux. Ouais. Du coup, j'avançais, je reculais, j'étais bien, j'étais plus bien. C'était vraiment compliqué. Et tout doucement, du haut de mes 38, presque 40 ans, je me suis dit, mais en fait, il y a un moment, t'es comme ça, Olivia. Mmh. Et la bipolarité, alors je ne me caractérise pas à travers la bipolarité, mais en tout cas, je vis avec. Okay. Et si je dérange, si le fait que Olivia vit avec une atteinte de trouble bipolaire dérange les autres, tant pis. Okay. Donc tout doucement, je me suis acceptée. Mmh. Et au fil de l'acceptation que j'avais à mon égard, j'ai trouvé que mon parcours était plutôt riche et j'étais plutôt assez fière du parcours que j'avais mis en place. Et là, je me suis tout simplement pleinement assumée professionnellement et finalement ça a été tellement plus facile de pouvoir parler librement à mes collègues, à mes supérieurs hiérarchiques des problématiques que je vivais, parce que du coup ensemble, avec mes collègues, avec mes chefs, on a pu mettre en place des outils pour me permettre de mieux gérer mon quotidien.
Donc comment ça a été reçu lorsque tu as dû annoncer ça dans le monde du travail? Est-ce qu'ils l'ont bien pris? Est-ce qu'ils t'ont conseillé? Est-ce qu'ils ont été avec toi dans le parcours ou
C'est compliqué, ça dépend à qui on s'adresse en fait. Ça dépend le degré que cette personne, le degré d'inclusion, le degré de tolérance, l'ouverture d'esprit. On n'est pas tous égaux face à ces éléments-là. Donc oui, j'ai eu un supérieur hiérarchique complètement perdu, affolé. Il a eu peur, il a été en colère. On a quand même réussi à mettre en place des outils, lui et moi. Ça a fonctionné. C'était les prémices, les premiers outils qu'on mettait en place. En l'occurrence, on mettait des petits smileys sur ma porte. Je mettais un petit smiley le matin pour annoncer « Olivia va bien ». Olivia est dans le noir. Mmh. Olivia est dans le bon, là. Ça risque de partir en cacahuète. D'accord. Et du coup, ça nous permettait à mes collègues et à moi de nous adapter.
Okay.
Et puis, les années ont passé. Sans doute, la notion de santé mentale a fait un petit peu son bonhomme de chemin. Mm-hmm. Et j'ai vécu une embauche dernièrement. Et après 2-3 mois où j'ai pris le temps de mesurer un petit peu la relation qui se mettait en place avec mon supérieur hiérarchique, je lui ai dit ouvertement. Okay. Et ensemble, on a mis en place des outils pour pallier justement au moment où j'allais chuter vers le haut ou vers le bas. Enfin, on ne chute pas en haut, mais bon, t'as compris ce que je voulais dire. Donc voilà. Donc, c'est un long cheminement.
Et justement, tu parles de santé mentale. Je voulais justement te poser cette question parce que ça revient sur le micro-trottoir qu'il y a eu juste avant. Donc, pour toi, quelle est l'importance de la santé mentale, surtout là aujourd'hui dans le monde du travail?
Alors pour moi, elle est indispensable. En fait, moi, je ne distingue pas santé mentale de santé physique, parce que si le physique va bien, il y a de grandes chances que le mental aille bien. Si le mental va pas bien, ça se répercute sur le physique. Enfin, pour moi, c'est une boucle qui se boucle. Donc, pour répondre à ta question, pour moi, la santé mentale, elle est fondamentale au même titre que la santé physique.
Ok. Et aujourd'hui, toi, tu participes un peu à cette thématique de santé mentale. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, justement, qui participe à ce thème, si tu peux nous en dire plus?
Mais bien sûr que je peux en dire plus. Merci, Ali, de me poser la question. Bah, j'ai envie de te répondre que ça a été une sacrée bataille, un sacré chemin de vie. Mais qu'aujourd'hui, j'ai 43 ans et j'ai beaucoup de chance puisque je peux parler aujourd'hui de rétablissement. Okay. Donc, ça a été un long parcours du combattant, mais depuis à peu près 4 ans, je suis stabilisée. Et du coup, depuis cette stabilité, depuis ce rétablissement, déjà, il faut se retrouver. Parce que du coup, ma vie, elle est devenue linéaire. Et c'est compliqué, en fait.
Alors, désolée de te couper, mais juste en parlant de stabilité, donc ça veut dire que maintenant, tu fais plus de crises hautes, up ou down
Non. Okay. J'en fais plus.
Okay.
Alors j'ai eu recours à une thérapie un peu hors norme, mm-hmm. puisque j'ai subi une électroconvulsivothérapie, okay. donc des électrochocs au niveau du cerveau, et toutes ces séances, 12 séances en l'occurrence, mm-hmm. m'ont permis de retrouver une stabilité. Okay. Donc aujourd'hui j'ai un traitement thérapeutique comme une béquille que j'aurai sans doute jusqu'à la fin de ma vie, mm-hmm. mais oui, je suis stable, je n'ai D'accord. plus ni down ni up, mm-hmm. et je vis en toute linéarité. Okay. Et du coup, un an, deux ans après ce rétablissement, ça a sonné en moi comme une évidence. Je me suis dit, tu t'es battu comme une guerrière, parce que clairement, je pense que c'est le mot que je peux m'attribuer. Mmh. Et je pense qu'il faut en faire profiter les autres. Il faut que tout le monde puisse savoir que, en fait, la bipolarité, c'est une vraie maladie. La bipolarité, il y a énormément de préjugés qui tournent autour. Et en fait, c'est faux. On est des vrais gens derrière. On a des vrais cœurs. J'ai une vraie famille. Mes enfants vont vraiment bien. J'ai un mari. J'ai des amis. Enfin, voilà, on est des gens tout à fait normaux, mais on se bat comme des guerriers. Et du coup, c'est comme une mission de vie. Mmh. Et aujourd'hui, il est essentiel pour moi de communiquer et d'expliquer ce que okay. j'ai vécu. Et quel est mon outil ? Mmh. Eh bien, en fait, j'ai un petit peu diversifié mon portefeuille de compétences, on mmh. va dire. Et aujourd'hui, je donne des conférences dans les entreprises.
D'accord.
Et notamment, l'objectif, c'est de travailler la sensibilisation des collaborateurs sur les troubles psy, les maladies psy,
ouais.
en entreprise. L'objectif, bien sûr, c'est l'inclusion.
D'accord. Et du coup, comment ça se passe, cette activité que tu fais maintenant? Tu vas dans plusieurs entreprises pour faire la sensibilisation justement de cette thématique?
Tout à fait. Aujourd'hui, on parle de QVT, mm-hmm. qualité de vie au travail.
Okay.
Je pense que c'est un terme qui n'existait pas il y a 10 ans en mm-hmm. arrière. Aujourd'hui, on en parle de plus en plus. Sans doute, la notion post-Covid aussi, on parle de santé mentale. Ce sont des principes, des concepts qui émergent énormément et qui font leur bout de chemin en entreprise.
Okay.
Donc oui, la manière... ce que je fais, en fait, c'est que je communique énormément sur le réseau LinkedIn mm-hmm. Au nom de mon entreprise qui s'appelle donc Dialogue entre deux pôles okay. conférence. Et du coup, à travers ce réseau social, je me mets en scène et je mets surtout en scène la bipolarité.
Okay.
Je partage beaucoup d'anecdotes, beaucoup de travail, beaucoup d'interviews, de reportages
mm-hmm.
Et tout ça avec beaucoup d'autodérision. L'objectif, en fait, c'est de faire connaître cette maladie, parce que si on la connaît, bah déjà, on la comprend mieux. Et mm-hmm. si on la comprend, on peut faire sauter les préjugés.
Mm-hmm.
Et c'est l'objectif de mes conférences, c'est de okay. déstigmatiser les maladies psy, et plus particulièrement sur le lieu de travail, parce qu'on peut être de super pépites professionnelles. Donc voilà. Et après, je fais connaissance avec les entreprises. Beaucoup d'entreprises sont sensibles à la qualité de vie au travail,
mm-hmm.
sont concernées par l'inclusion, et c'est dans ce contexte-là qu'on se rend compte et que j'interviens.
D'accord. Donc tu dirais que maintenant, les entreprises, elles sont un peu plus ouvertes à leurs salariés, ils sont plus à l'écoute et ils leur laissent un peu plus de temps d'aller mieux et de mieux travailler.
Complètement. Aujourd'hui, au sein des entreprises, au sein des services ressources humaines, on a des responsables inclusion, on a des responsables QVT.
Mmh.
Donc oui, ça fait son bonhomme de chemin dans les entreprises,
okay.
l'importance de travailler dans un univers inclusif.
D'accord. Bah, malheureusement, nous arrivons bientôt à la fin de cette émission. Qu'est-ce que tu voudrais dire à nos auditeurs qui t'écoutent aujourd'hui, que ce soit sur la santé mentale, le professionnel, qu'est-ce que tu as comme mot à leur dire, un message à leur partager ?
Que ce soit d'un point de vue personnel ou professionnel, j'ai envie de vous dire, il faut toujours croire en ses rêves.
Ok. Bah, parfait. Bah, en tout cas, je te remercie beaucoup pour cette interview. C'était super intéressant. C'était un sujet qui me tenait à cœur. Donc, merci d'être là aujourd'hui. Et puis, à bientôt.
Merci de m'avoir accordé du temps.
De rien, pas de soucis. Est-ce que tu peux rappeler tes réseaux sociaux, s'il te plaît, pour qu'on puisse te retrouver ?
Bien sûr, je suis présente sur LinkedIn. Mm-hmm. On me trouve au nom de mon entreprise. Donc, c'est Dialogue entre deux pôles mm-hmm. conférence. Et sinon, on me trouve sur mon nom propre, Olivia Desmazière. Merci beaucoup.
De rien. Bah, merci à toi. Et en tout cas, à la semaine prochaine. Et puis, à bientôt pour Complètement à l'Est.